façon, c'est la confusion générale. Ça dépend de ce qu'on se raconte pour pouvoir penser une expérience, la mettre sur pied, la monter et la commenter, en faire quelque chose. C'était déjà vrai à propos du vide. Celui, je crois, qui a fait le coup de force le plus extraordinaire, c'est Pascal, Blaise Pascal, avec le vide. À mon avis, c'est pour ça que Lacan évoque la question du vide et du Père Noël à propos de la psychose sociale dans les écrits, dans son écrit sur la psychose. Question préliminaire au traitement de psychose sur la psychose freudienne, sur le symptôme freudien de la psychose et la suppléance freudienne, qui a occupé Lacan toute sa vie, hein, jusqu'au symptôme. C'est dans le symptôme qu'il a introduit la psychose paranoïaque comme personnalité et comme neutre. Mais avant, chez Freud, la psychose paranoïaque, c'était des trois ronds défaits, c'était des trois ronds qui n'étaient pas noués. Et puis, il y avait un quatrième rond que Freud a rejoint, c'est pour ça qu'on trouve cette figure dans le séminaire de Saint-Thomas, mais avec des dessus-dessous. On trouve même, vous voyez, cette figure, on la trouve comme ça. C'est assez facile à dessiner parce que c'est presque alterné. Vous voyez, c'est joli. Regardez. Ça, c'est dans le Saint-Thomas. Alors là, ça passe en dessous, donc ici, ça passe au-dessus, donc vous en avez un autre là. Vous voyez, vous faites un espèce de carré comme ça au milieu. Et c'est facile à dessiner parce que le carré, il est là, le carré. C'est un carré un peu déformé. C'est comme une petite portion de surface. C'est des illusions. Et ça s'écrit quand même. Ça cherche à s'écrire. Ça. Il faut le faire. C'est quand même effectif. Parce que si vous vous gourrez dans les croisements, ça ne va pas être borné. Mais quand vous avez fait ça, vous voyez. Celui-là qui passe au-dessus, ici, il va passer en dessous de la droite infinie. Et puis là aussi, il va passer en dessous de la même droite infinie. Parce que c'est cette même droite qui passe là et là. Donc ce haricot, il est traversé par cette droite infinie. Mais cette droite infinie, on va la fermer en cercle. Parce que nous, l'infini, c'est la banlieue d'à côté. C'est juste à côté. Grâce à des arbres. Alors là, regardez ici, de ce côté-là, le haricot, on le ferme par au-dessus. Vous voyez ? Comme ça. Et là, on le ferme par au-dessus. Comme ça. Bon. Voilà mes deux A', là, mes deux ronds. Hein? Et puis, vous voyez, maintenant, je ferme le cercle. Mais alors là, attention, c'est plus alterné. Et Lacan, il le dit sans arrêt, 5 fois dans le séminaire RSI. Il faut pas rater le croisement qui est justement des deux droites infinies à l'infini. Qui est les deux droites infinies, elles n'ont pas besoin de se croiser tant qu'elles sont infinies. Et puis, si on les ramène comme des cercles avec l'infini à côté de la maison, chez les voisins, on continue à avoir une illusion que l'infini, c'est quand même l'infini, quoi. Parce que si vous le ramenez tout à la maison, alors là, vous avez bien pigé comment ça marche, et vous ne vous intéressez plus à l'infini. C'est plus pour vous un problème. Alors regardez, ici, lequel doit passer au-dessus de l'autre, des deux ronds? C'est ça la question. Ils arrivent ici, et puis là, ça, c'est là que Joyce se gourre. Mais Joyce, il se gourre pas dans une chaîne à 4, mais dans une chaîne à 3. Ce qui va l'obliger à faire une suppléance avec un rond pour bloquer sa gourrance. Bon. Et là, quand il vous dit toujours dans RSI, avant de faire le symptôme, il vous dit tout le temps, faites attention, il faut pas se gourrer là, à l'infini. Alors ici, il faut qu'il passe, comme il passe au-dessus de ce cercle-là, celui-ci, et ben, il faut qu'il passe au-dessus aussi, ici. Vous voyez, il faut qu'ils passent au-dessus. Comme ça, ils ne seront pas enlacés. Parce que s'il y en a un qui passe au-dessus de l'autre, vous voyez, s'il y en a un qui passe au-dessus de l'autre ici, et que là, il passe en dessous, ah ben, ils vont faire un enlacement. C'est ce qui arrive à Joyce. Il se gourre, la fille. Il y a un enlacement, et il y a même le troisième rond dans la chaîne à 3, le troisième rond, il se fait la main, il se barre. Hein, la cordie, c'est l'imaginaire qui, pour lui, s'en va comme une pelure. Oui, vous êtes bien.
Je voulais vous demander comment vous êtes passé de Blaise Pascal à la psychose freudienne.
Eh bien, justement, je suis en train d'arriver doucement. Je dis que Lacan, lui, va franchement, c'est à cause de cette histoire d'expérimentation et de discours, hein, ce que j'ai dit, allez lire Coiré à propos de la science newtonienne, mais si vous lisez les expériences sur le vide de Pascal et les lettres au Père Noël, qui est un révérend père jésuite, hein, et qui défend l'inexistence du vide, alors que Pascal veut lui montrer que le vide existe. Et il avance, Pascal, ses expériences qu'il a faites à Clermont-Ferrand, sur les liqueurs, les équilibres des liqueurs. Bon, eh bien, Lacan, comment Lacan nous évoque toutes ces questions de la science expérimentale qui est un truc paranoïaque? Pourquoi c'est la chose? Parce que ça intéresse des gens qui voudraient que les choses marchent sans nous et sans qu'on les écrive. Déjà qu'on n'en parle pas, tout le monde est d'accord, on en parle assez peu. Les gens qui font des sciences, ils ne sont pas très bavards. Sauf que ils se marrent, ça compte des histoires, mais en général, ils ne sont pas très marrants dans le boulot parce que c'est assez, disons, désexualisé. C'est assez. Le laboratoire, c'est un truc où. Bon, c'est un peu hygiénique du côté du langage. On va dire ça comme ça. C'est mieux parce que si vous voulez faire de la chimie correctement, il faut mieux se laver les mains. Comme dans les hôpitaux, il faut que ce soit assez hygiénique. Bon. Mais n'empêche que vous avez cette idée que l'expérience, elle permettrait de se passer finalement du langage. Que les choses. Regardez, aujourd'hui on en est arrivé grâce à M. Reagan et Mme Thatcher. On est arrivé là, à un moment donné, là, à cause des crises, de la crise pétrolière, de ces questions-là, à se dire qu'on va y arriver à ne plus faire de science avec le langage et avec le discours. Plus de recherche fondamentale. Et aujourd'hui, il y a même des directeurs de laboratoires en France, là, il y a un an ou deux, qui se sont aperçus qu'ils n'avaient plus de crédit, qu'on ne donnait plus d'argent pour la recherche fondamentale. Et ils se sont mis en grève, ils ont démissionné tous les directeurs de recherche du CNRS. C'est marrant parce que c'est les mêmes qui sont conseillers des ministres dans les cabinets ministériels à propos des affaires scientifiques et qui disent aux ministres que la science, ils n'y croient plus et que ça ne les intéresse plus et que tout ça, c'est du pipeau. Mais que par contre, on doit pouvoir faire un business vachement bien, parce qu'on peut faire de la publicité et du marketing, avec toutes les productions qu'on sait produire, toutes les saloperies qu'on sait produire, avec de l'électronique, de l'atome, de tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas écologiste. C'est pire. Je trouve que les écologistes, c'est aussi des gentils garçons, c'est assez hygiénique. Donc, moi, je m'occupe d'un truc qui s'appelle sexe. C'est vraiment dégueulasse. Non, mais vraiment, je vous le dis, tout le monde réprouve. Mais enfin, bon. Et on s'est dit qu'on pouvait se débarrasser de ça si on se débarrassait de la parole, de l'écriture, de la lecture, du langage, de la langue. On parle en code. On vous dit qu'on a des codes. Et, un tel, il ne comprend pas ce qui se passe dans son quartier, c'est parce qu'il n'a pas les codes. Se moquer, mais c'est pas la code, c'est la signifiance. C'est de la signification au sens des incorporels. C'est ce que l'étranger ne peut pas comprendre. Il faut être dans le coup pour comprendre ça. Et c'est grâce à ça qu'on comprend les mots d'esprit. C'est ça la question du langage. Le paranoïaque ne supporte pas le langage parce qu'il ne supporte pas que pour lire, il faut inventer aussi. C'est le phonème. C'est ça la langue. Le grain de langue. Regardez, le grain de langue, faites l'expérience, c'est exactement la même chose que les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous entendez un coréen parler, vous parlez coréen, bon, si vous parlez coréen, j'ai tout faux, parce que ça, vous savez comment il faut découper le flux verbal, parce que vous avez appris à lire et à écrire plus ou moins. Apprendre une langue étrangère, c'est d'abord la découpe séquentielle. Chez Freud, ça s'appelle Verlinization. Signes de perception. Les perceptions deviennent signes. Cette mutation de la perception en signes, c'est pas que ce ne sont pas des signes, c'est la perception elle-même, la substance, la matière perceptive qui est découpée. Et ça devient des lettres. Vous voyez la différence dans le langage, pourquoi c'est de la topologie? Parce que c'est du continu, un flux verbal continu que celui qui écoute découpe. Et vous pouvez. Vous pouvez découper de toute façon. Alors vous dites, bon, ben alors justement, c'est ce que le paranoïaque ne supporte pas. Il dit, tout n'est pas compris sur le billet, sur la note, sur la facture. Le service, lui, le paranoïaque, il veut que le service soit compris, qu'il n'y ait pas d'appréciation de la clientèle. Ben, le langage, c'est que de l'appréciation de la clientèle. Et voilà. Et alors, du coup, injustice, parce qu'il y en a qui sont plus lents que d'autres. On les appelle débiles, idiots, imbéciles, ça, c'est des mots juridiques. Vous voyez, Foucault, il le dit bien, quand même. La psychiatrie, c'est venu du droit. Ces mots d'imbécile et d'idiot, ce sont des mots juridiques. Alors aujourd'hui, on a dévié, on a même inventé autiste aussi. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Moi, je pense que c'est très simple et que c'est très difficile. Et c'est difficile pour tout le monde. Il n'y en a pas un. Ce que la psychanalyse nous apprend, c'est qu'il n'y en a pas un ou une, enfin, parmi tous ceux que vous pouvez rencontrer, il y en a qui sont pétants, qui veulent nous faire croire à top et qui se prennent bien dans le tapis, vous voyez. Ils vont même se marier à Disneyland. Extraordinaire. Et ben, et vous voyez que c'est tous des illettrés qui se... Tout le monde sait faire un petit bout, un petit morceau, hein. Alors on va à l'école et on montre au professeur ce qu'on sait faire. Et comme ça, le professeur, il est content, les parents aussi. Si on sait en faire un peu plus que les autres, on sera à l'école normale. C'est comme ça. Et puis, et parce qu'il y a un concours, donc ceux qui en font un peu plus, ils auront plus de chance. Mais je vous promets qu'il y en a tous qui, un jour, soit devant une feuille de papier, soit devant une toile blanche, soit avec un violon dans les mains, ou au lit, ça arrive aussi, eh bien, il y a des moments où ça peut devenir très angoissant. Cette histoire de découper, de lire. C'est-à-dire que pour pouvoir entendre quelque chose, une langue, parler, c'est déjà... Il faut introduire le Vermeulen's Echelon, c'est le chemin qui conduit au trilunaire. Regardez les schémas de Lacan, vous verrez le trilunaire, il dit même l'idéal grandi, c'est du trilunaire. Vous voyez, l'impératif, la puissance de la parole chez la mère. Hein? Bon, c'est pas... Lacan, il gueule pour le fait qu'on lui reproche à tort. C'est nous qui lui mettons. Bon, ça vient du trauma. Et le trauma, ça produit cette aliénation. C'est pas la première étape structurale. Faites attention, parce que les choses dont je vous parle, ce sont des choses qui ne sont pas des choses chronologiques et historiques. Hein, les étapes qui sont la naissance du corps. Lacan, qu'est-ce qu'il nous balance là? Parce qu'il ne veut pas lâcher le morceau, il ne veut pas faire conception du monde, donc il fait un truc. Il essaye de bien racler tous les fonds de tiroir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le côté de la naissance, il dit non, c'est pas ça, c'est pas rentre, c'est pas ça qui est traumatique, c'est pas la naissance. Hein, Freud disait la fin des deux derniers chapitres de l'émission Symptômes et Angoisses. La naissance, c'est pas ce que dit Rang, c'est pas, ça ne peut pas marcher comme trauma, la cause de l'angoisse, parce que sinon on devrait être tous névrosés pareil, parce qu'on est tous nés comme ça de la même manière. Et Lacan, dans le mythe de la lamelle, position d'inconscient, on meilleur dit à l'autre endroit, mais le mythe de la lamelle, qu'il appelle d'abord l'omelette, c'est quoi? C'est un ghost qui s'échappe au moment de la rupture des membranes. Et ça va être un organe qui est réel, mais du côté de l'irréel. Vous voyez, c'est un irréel réel, cet organe. Et il l'appelle même incorporel. Bon, disait, dans position de l'inconscient, la première étape. C'est la première étape historique, puisqu'on est né comme ça. Ensuite, si vous en tenez là, ça tout le temps. Pourquoi Lacan fait ça? Parce que dans le syndrome, il nous dit ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. Donc on ne peut pas couper, on ne peut pas dire non, ça commence que avec le trauma dans l'entrée dans le langage et la parole. Ça commence, Lacan ne veut pas lâcher même ce côté. C'est pas du tout pour faire du cérumnique, genre résilience, nous expliquer la psychologie humaine grâce à la psychologie animale. Ça, c'est une escroquerie totale. Hein, c'est pas du tout pour ramener les choses. Il faut prendre les choses au contraire. C'est notre meilleure connaissance de notre langage, de nos langues, de nos écritures, de nos mathématiques, de nos sciences. C'est ça qui permettra de mieux apprécier et de dire moins de bêtises à propos même de l'éthologie. Donc, vous avez une première étape, c'est la naissance. Ensuite, vous avez le trauma, malentendu des parents. Là, le sujet rentre dans le langage. Il est traumatisé. Hein? Il ne s'entend pas crier. Alors, c'est très élégant la solution de Lacan, parce que vous voyez que c'est proche de la scène primitive que cherchait Freud là, dans l'homme au loup. Hein? Vous voyez, parce que quand est-ce qu'ils ne s'entendent pas crier, les parents? Ben, quand ils sont au lit. Entre autres, et ils ne s'entendent pas aussi crier quand ils sont en train de s'engueuler dans la cuisine, ou au salon, ou à la salle à manger, mais ils peuvent aussi d'ailleurs baiser dans la cuisine. Hein. Bon, vous savez, la psychanalyse, ça nous apprend que l'endroit où ça se passe, c'est très important. Les obsessionnels, ils pensent aux chiottes, les phobies, ça se passe dans la cuisine. Ah oui. Vous allez avoir l'anorexie, tout ça, ça va suivre. Bon, donc, le lieu, l'endroit, si ça se passe dans le placard, je vous laisse deviner qu'est-ce qui se passe. Bon, donc toujours est-il que les enfants, ils sont traumatisés par le malentendu des parents. Les parents, si on ne les voit pas, s'ils ont fermé la porte, ils croient que c'est immune. Ben, pas du tout. C'est traumatique. Alors, en Argentine, ils ont une tradition espagnole qui vient d'Espagne, qui existe aussi en Espagne. Il y a les hôtels transitoires. Vous voyez, ce n'est pas du tout des bordels. Hein, c'est pas du tout. C'est des hôtels où on va, mais en couple. On n'est pas accepté si on n'est pas un papa-maman. Enfin, ce n'est pas forcément papa-maman. Bon, mais enfin, on ne va pas regarder plus. Mais n'empêche qu'il y a des couples mariés qui ont la coutume, on va parler comme ça, hein, ils ont l'habitude d'aller une fois par semaine ou plusieurs fois, je ne sais pas, une fois par mois, ils vont à l'hôtel transitoire, ça s'appelle auberge transitoire. Et les Français qui croient être des foudres de sexe ont toujours pensé que l'auberge espagnole est un endroit où on emmenait sa nourriture, non? C'est dans le moment où on emmène son partenaire, c'est rigolo. Ça existe dans l'auberge espagnole, mais ça s'appelle. Alors les Américains, ils ont appelé ça Love Hotel, parce qu'ils font du tourisme. Pour les gens du coin, c'est pas touristique, c'est pas en anglais en plus. Mais ça s'appelle auberge transitoire. Joli, non? Vous les repérez dans Buenos Aires parce qu'il y a des arbres devant la façade pour que les gens ne soient pas vus en train d'entrer par la porte. Comme il y a beaucoup d'arbres à Buenos Aires, vous avez justement là des paquets d'arbres devant les auberges transitoires. S'il y a beaucoup d'arbres sur un trottoir, beaucoup de verdure, c'est qu'il y a un hôtel transitoire qui se cache derrière. C'est charmant, non mais c'est charmant parce qu'il faut, en parler, parce qu'on croit que à l'Argentine, à l'Ordre de là, c'est torride. Mais c'est pas vrai, ils sont pas pires que les Bordelais, c'est un port. Les Marseillais, c'est Marseille et Bordeaux. Marseille ressemble beaucoup à Buenos Aires. Et puis Bordeaux, les gens de Buenos Aires, les Italiens de Buenos Aires sont un peu là. La bourgeoisie moyenne, ça ressemble beaucoup à la bourgeoisie bordelaise. Vous savez, ceux qui sont anglophiles et qui détestent les Parisiens, c'est les Bordelais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les Parisiens, c'est une engeance.
Mais bon, c'est pas loin.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de lecture? L'étape suivante, le sujet, quand il a découvert la puissance de la parole, la dimension de la parole, la dimension de la vérité, c'est ce qui donne raison à Frege. C'est pour ça que Frege, c'est quelqu'un qui écrit de la logique, mais ça indique qu'il y a une intuition de la vérité. L'intuition de la vérité, c'est un vrai intuitionnisme. Moi, je pense que Frege est plus intuitionniste que Poincaré, Brouwer et beaucoup d'autres. Donc déjà, je ne raconte pas l'histoire du formalisme et de l'intuitionnisme comme les profs de maths et les profs de philo. Ça, ça pourrait se discuter. Mais c'est vrai que Frege, c'est un intuitionniste qui veut arriver à analyser les choses par l'écriture. Donc il a un aspect formaliste. Mais il n'est pas formaliste fondamentalement. Et il n'est pas logiciste, comme je vous le disais, parce qu'il ne veut pas réduire l'arithmétique à la logique, il veut faire la logique qui accompagne l'arithmétique. Et tout ça est écrit, on est bien d'accord. Bon. Mais n'empêche que la vérité, justement, ça ne s'écrit pas seulement. Si on l'écrit, on commence à la décomposer, on la découpe. Dès qu'on écrit, on découpe. Pour écrire, il faut découper. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un autre facteur que Lacan fait intervenir, à part le trauma. Alors, la difficulté chez Lacan, je vous dis tout de suite, avec cette histoire de trauma et de malentendu, qui est vraiment l'étape fondamentale, c'est ce qu'il appelle la droite infinie. Il dit, c'est un trou, la parole, le malentendu des parents, c'est un trou, mais le trou, il est là. Nous sommes dedans. C'est le Urverdrang. La DI, voilà, ça c'est le dieu de Lacan, la DI. C'est pas le dieu de Newton, ça c'est Newton. Oui, je vous les ai pris au tableau. Vous pourrez dire comme ça, j'ai vu aujourd'hui le dieu de Newton et le dieu de Lacan. Écrit au tableau. Bon, le dieu de Lacan, c'est la DI. D'abord, il le féminise un peu, son DI. Joli. Il dit, on ne peut pas penser. On se trouve, parce que ça nous constitue, nous sommes dedans. Le trou, il est autour de la droite infinie. Il est là, le trou. Et c'est ça l'heure vers l'angle de Freud. Donc, ce n'est pas la naissance. C'est la naissance à la parole. Et ensuite, il y a un endroit où Lacan nous parle de l'incorporation. C'est le seul endroit que je connaisse où il parle de ça. Si vous trouvez un endroit, il distingue bien l'incorporation de l'introjection. Faites attention, l'introjection, il en a parlé à propos de la projection dans les années de Lagache et quand il a écrit aussi sur Gide. C'est un texte qui est entièrement articulé sur projection, introjection. Le rapport sur le commentaire qu'il fait, les remarques qu'il fait sur le rapport de Lagache, et puis ensuite la genèse de Gide. C'est un peu avant qu'il écrive Kant avec ça. C'est important. Bon. Donc, c'est pas du tout l'introjection, c'est pas l'incarnation. L'incarnation, c'est une notion théologique. Hein. C'est assez important pour l'histoire des sciences. Cogel, il donne toute son importance à cette incarnation chez les chrétiens et spécialement les catholiques. Bon, source chrétienne de la science moderne, ça c'est Cogel, hein, c'est pas Lacan. Donc, il ne faut pas que vous confondiez incarnation, introjection et incorporation. Et là, Lacan, il parle de l'incorporation dans radiophonie, question numéro 2. Comment ?
Question 3.
Non, 2.
Question 3, c'est la métaphore.
Voilà. C'est la linguistique et la métaphore. Sa différence avec Jacobson. Bon. Donc là, dans radiophonie, question 2, il nous raconte, il nous dit que le corps naïf, il est incorporé par un corps de langage. Et qu'il y a des parties du corps propre, du corps naïf, là, qui ne rentrent pas dans ce corps de langage. C'est ça qu'il appelle les incorporels. Et il dit que c'est formidable que les stoïciens, c'est un écrit qui parle beaucoup du stoïcien, il parle du lecton, il parle des incorporels, donc il parle beaucoup des stoïciens là, dans cet écrit, dans cette question 2, et puis dans un peu la question 1, la question 3 aussi. Bon, la question 4, je vous dis tout de suite, c'est là qu'il raconte l'histoire. Kepler, Newton, Galilée. Et il le met en rapport avec Freud, Lacan, et puis qui sera le Newton de Freud, Lacan, ça on ne sait pas. Et mais il fait aussi la même chose avec Marx, Lénine, et Sam Bayou, il en a fait une provocation avec les psychanalystes. Il faudra bien qu'ils en rendent compte, les psychanalystes, hein, de ce que Lacan raconte. Il dit Marx, Lénine, Freud, Lacan. Alors Lacan, ce serait Lénine de Freud. Merde, là, révélé la révolution d'octobre, là. C'est vachement menaçant, ça, on s'inquiète, hein. Comme Milner se plaint que c'est plus un. On n'en parle plus de la révolution depuis que le mur s'est effondré. Et il a l'air malheureux, puis en même temps, d'un côté, maintenant, il est devenu religieux. Il est retourné Bon, très bien. Mais le problème, c'est que. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lénine et de Freud ? Alors, je pense que Lacan, c'est le Lénine de Freud au sens où il a dit.
Il dit qu'il y a des hommes qui font la lettre,
oui.
Et que c'est dans ses merveilles, et que Marx.
Il y a des hommes qui font la lettre.
Oui.
Mais dans Radiophonie, il dit que Lénine, la révolution d'octobre, c'est un passage à l'acte du marxisme. Lénine, c'est un passage à l'acte du marxisme. Pas mal. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça, je sais pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas, traiter le problème en termes de bien et pas bien. Enfin, on appelle ça le mal. Enfin, moi, tout ça, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors, si c'est bien ou pas bien, moi, je pense que de toute façon, c'est pas bien. Mais c'est pas une raison de ne pas faire des choses qui sont vachement chouettes. Vous voyez, c'est ça la jouissance. La différence entre la jouissance et le plaisir, c'est que la jouissance, ça se trouve dans le déplaisir. Ça se trouve dans l'insatisfaction, là, dit Lacan dans la logique du fantasme. Hein. Et la jouissance se trouve dans l'insatisfaction. Ben, pour piger ça, il faut que vous arrêtiez de penser en termes de bien et mal, et que vous arriviez à piger que ça veut dire quand même la jouissance, c'est la satisfaction du désir. Alors il suffit de mettre à la place jouissance, satisfaction du désir pour obtenir une phrase logiquement intéressante, c'est que la satisfaction du désir, c'est la satisfaction. Alors à ce moment-là, ou vous jetez à la poubelle en disant bon, vous voyez bien, c'est complètement con, ou c'est un paradoxe, vous en voyez de vos âmes. Moi je dis c'est une structure, il faut l'écrire.
En fait, c'est pas tout à fait ça.
Ah bon, vous savez tout ça très bien, mais vous êtes en train de parler de Lacan ou d'une idée que vous avez vous ?
Ben, en fait, vient toujours après, mais c'est difficile de dire
la différence. Non, non, mais moi je suis en train de vous parler d'une phrase qui est dans le séminaire, la logique du fantasme. Hein.
Oui, je suis d'accord, mais dans ce qu'on a pas, c'est peut-être le moment que j'aimerais dire, c'est-à-dire que, en fait, la conscience, c'est la marque de quelque chose qui est passé.
Oui, mais c'est très compliqué ça. Vous avez sûrement raison, peut-être vous avez raison, mais moi, je pense que vous avez réfléchi à cette question. Mais c'est compliqué parce que la marque, la trace, tout ça, c'est vraiment problématique. Hein.
Oui.
Bon, tandis que moi je suis en train de dire un truc beaucoup plus simple. Moi je suis en train de dire que si je reprends le raisonnement de Lacan, c'est, ça se fait en trois étapes, c'est pas compliqué. Première étape, il y a le plaisir. Hein, l'enfant qui a faim, il tourne la tête. Il cherche le sein, il ne le trouve pas, il hallucine le sein et il est content. Ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que tout de suite, dans Freud, et à l'époque, Freud, je ne dis pas que Freud ne l'a pas dit, hein, Freud l'a écrit, mais tout de suite, dans Freud, vous avez, il parle aussi d'un deuxième principe de la causalité qui est le principe dit de la réalité. Et qu'est-ce que c'est la réalité? C'est mon garçon, arrête de. Bébé, là, arrête d'halluciner le sein pour être content, ça fait plaisir un moment, mais c'est illusoire. Faut s'occuper de la réalité. Comment on s'en occupe de la réalité? C'est la fuite. Hein. Le principe de réalité, vous savez ce que c'est. Si je retire ma main du feu et que la brûlure ne vient pas avec ma main, c'est que le feu est dans la réalité et pas dans ma main. Au bout d'un moment, la brûlure, elle vient avec la main, elle est rentrée dans la main. C'est pour ça que la douleur, c'est le bord de l'appareil psychique. Bon, mais vous voyez que, qu'est-ce que c'est le principe de réalité? Je peux fuir, c'est donc dans la réalité. Si, quand je fuis, je l'emmène avec moi, c'est pas dans la réalité extérieure. Bon. Ça, Lacan, il dit dans la logique du fantasme, il dit, bon, arrêtez, ça c'est c'est un catéchisme, c'est pour les nourrices. Hein. Freud, il a pensé comme ça, il l'a cru, il l'a développé, mais il a quand même écrit un truc qui s'appelle de l'autre côté du principe du plaisir dans les années 20. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, il dit, première étape, ça c'est mêlement, vous voyez, le monde sans limite, il faut donner des limites aux enfants, tu dois respecter le principe de réalité. Même Sarkozy est capable d'employer le mot principe de réalité. Fillon, si c'est pas Sarkozy, c'est Fillon. Bref, c'est-à-dire que de toute façon, c'est des abrutis totaux, parce que c'est des mecs quand même, ils se rendent pas compte que les paroles c'est grave, et que ça fait 5 ans que je suis maintenant en Argentine, parce que je suis réfugié politique à cause de ces gens-là. Ils sont dangereux parce qu'ils parlent, vous voyez. L'autre Kouchner, il vient dire « Démissionner, c'est déserter ». Mais c'est complètement un abruti. Écoutez, Chevènement, même avec toutes les difficultés qu'il a avec le langage, il est quand même un champion, il a démissionné. Même, bon, on le trouve un peu lent, un peu... Bon, c'est un brave mec de Belfort. C'est pas un Suisse. Bon, c'est comme ça. Bon, il est quand même... Il est, au moins, politiquement, considère que la démission c'est un acte, c'est pas du pipeau. Aujourd'hui, vous pouvez dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout, parce que la parole c'est blabla. Alors moi je dis que la parole et l'écriture, la façon dont ça fonctionne, c'est pas simple. Et c'est l'un ne marche pas sans l'autre. Lacan il dit que le signifiant est une lettre, mais il dit que la lettre n'est pas un signifiant. Ça c'est intéressant. Vous avez remarqué qu'il disait ça, qu'il l'a écrit là. Le signifiant est une lettre. Ça m'a vachement frappé. Parce que je vous dis que pour qu'il y ait du signifiant, il faut qu'il y ait déjà du découpage. Le flux verbal, c'est pas seulement ça le signifiant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la parole, c'est la même chose que l'écriture. C'est pas identique.
Il dit ça où?
Alors il dit ça dans. C'est dans les autres écrits, donc c'est dans les conférences italiennes. Vous voyez, au moment où il est en train de faire, je crois, la première ou la deuxième. Donc il dit ça quand même qui m'a beaucoup surpris, que le signifiant c'est de la lettre. Bon. Mais la lettre, c'est pas du signifiant. Le signifiant n'est pas réductible à la lettre pour autant. Bon. On s'en doutait que le signifiant c'était de la lettre quand même, puisqu'il est question d'analyser des rêves en lisant le texte du rêve. Le rêve il est raconté verbalement. Donc, dans ces histoires, il faut aller à part mesurer. Vous avez la corporation. Eh bien, moi, j'avance que le narcissisme, c'est la difficulté de coordonner le trauma, c'est-à-dire la dimension de la parole, les éléments en pointe, donc ça, l'impératif du signifiant, la parole comme ordre, la parole comme impératif. ça justement, c'est quelque chose qui peut-être est spécifique de la parole, c'est pas la lettre, c'est pas la même chose dans la lettre. Donc l'aspect, la fonction imaginaire du phallus symbolique. Voilà, la fonction imaginaire, c'est la parade sexuelle. Je fais bon, quand je parle, je commande, j'impose. Bon, et ben moi je pense qu'il faut le faire, en sachant qu'on le fait, et ne pas en abuser. C'est ça la phallique. Hein, c'est les abus qui sont nocifs. Mais dire que sous prétexte qu'on ne veut plus être dupe de la parole et de l'impératif, on fait des saloperies et on dit qu'on ne les a pas dites. Et on ne se rend même pas compte quand on le dit qu'on a inventé quelque chose. Hein.